Comme beaucoup de touristes à Paris, je pense, j'étais très déçue la première fois que j'ai vu la Joconde. Elle est toute petite. Quand on voit les reproductions dans les livres d'art, on a l'impression que toutes les œuvres sont à peu près de la même taille, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais on peut être surpris dans les deux sens. Avez-vous déjà été surpris par la grandeur de quelque chose? Celle d'une image connue, par exemple, mais que rien ne nous préparait pour la grandeur de la réalité, la Tour Eiffel, le David de Michel-Ange, j'ai jamais vu, mais il paraît que c'est immense. Pour moi, c'était les nymphéas de Monet. Après le coup de la Joconde, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais ils sont immenses, la taille de toute une pièce. C'est impressionnant. Notre sujet de ce matin, c'est la grandeur de Jésus-Christ. Si on prend le temps de le méditer, aux Colossiens, chapitre 1 et 2, Paul nous dresse un portrait de Jésus-Christ, taille nymphéa, si on veut. Je vous invite tout simplement à venir le regarder tel qu'il est et de vous laisser émerveiller devant sa grandeur. Paul utilise un vocabulaire très particulier dans cette lettre aux Colossiens. Vous avez peut-être remarqué, si vous tournez maintenant aux Colossiens 1, ce serait le bon moment. Elle est bourrée de ce que j'appelle les mots plénitude, plein, pleine, pleinement, tout, entier, toute. Ça revient, ça revient. Regardez avec moi chapitre 1. On va lire versets 15 à 23 d'abord. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Et juste pour voir encore le vocabulaire, chapitre 2, versets 9 à 10, par exemple. Car en lui, et on va venir tout à l'heure au chapitre 2, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il pourrait pas le dire plus clairement. Tout. Il y met le paquet. Au point où ce n'est pas du bon français, on ne dit pas toute plénitude, c'est n'importe quoi. Il veut nous montrer que Christ est tout et nous avons donc tout en lui. Je pense que notre société est devenue cynique par rapport aux prétentions à l'universalité ou à toute suffisance. D'habitude, c'est du marketing. L'assurance tout risque paraît super jusqu'à ce qu'on subisse un dégât des eaux et on voit qu'il y avait 20 exceptions, c'était pas vraiment tout. Tout ne veut pas dire tout. Et au bout d'un échange frustrant avec la société d'assurance, le comble est quand la représentante dit « En fait, Madame Nelson, pour être vraiment sereine, il faut passer à notre contrat diamant tout plus. » À cause de la surenchère de marketing, tout ne veut plus dire tout. Il y a plusieurs niveaux de tout. Donc, on a besoin de savoir si Jésus-Christ, il est le tout générique, ou s'il est le tout ultra plus nouvelle version payante mise à jour. Avons-nous finalement besoin du complémentaire, d'une mutuelle pour couvrir la part restante. C'est la question qui se posait à Colosse et on va voir la réponse. D'abord, Christ, le roi de toute la création. Au verset 15, image, il dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. L'image, ça veut dire reflet parfait, révélation exacte et précise du Dieu invisible. Il y a 2000 ans, si vous étiez jeune Israélite, vous auriez pu serrer la main au Dieu de l'univers, jouer avec lui, partager un falafel avec lui. Peut-être que vous avez l'habitude de parler de Jésus comme révélation de Dieu rendue visible. Cela ne nous interpelle plus. Mais pour les premiers chrétiens, c'était étonnant. Dans l'Ancien Testament, l'idée de voir Dieu ou de le comparer à un homme serait impensable. Pour mieux comprendre, on va appeler deux témoins de l'Ancien Testament, Moïse et Job. D'abord, Moïse. Moïse a été de tous les personnages de l'Ancien Testament, celui qui a plus connu Dieu, on dirait. Il s'est le plus rapproché de Dieu physiquement. On dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme on parle avec son ami. Pourtant, quand Moïse a demandé de voir sa gloire, Dieu lui dit, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, verset 20. Imaginez Moïse qui lit l'épître aux Colossiens, qui lit ce que Paul dit ici. Quel miracle impensable quand Christ, le Dieu saint et puissant, brûlant et invisible, s'est rendu visible sans qu'on ne soit totalement détruit. Christ est plus grand qu'on ne le pense. Maintenant, habitons Job sur le plateau. Job était également persuadé que de l'impossibilité de voir Dieu. Mais cette vérité lui faisait de la peine, parce que dans sa souffrance, il comprend qu'il ne peut pas se justifier devant Dieu pour plein de raisons, mais une de ces raisons qui lui fait de la peine, c'est que Dieu nous échappe physiquement. On ne peut pas parler avec Dieu face à face pour poser nos questions. Écoutez juste Job chapitre 23. Il y a beaucoup d'exemples, mais je vais juste lire versets 3 à 8, où Job dit « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirais ma bouche d'arguments. » Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Et il continue. Imaginez la réaction de Job quand il lit ce que Paul dit ici, que Jésus est l'image du Dieu invisible. Il est venu, Dieu lui-même, en chair et en os. Il a répondu au désir profond de Job et de nous tous, qu'il se montre à nous, qu'il nous parle à notre niveau, sans nous écraser. Ce Dieu incarné a même assisté à un procès, ce que Job réclamait, ce qu'il voulait. Mais le juge de l'univers a lui-même été jugé, condamné par les hommes injustes et a pris nos souffrances, les souffrances de Job et de nous tous, sur lui. En Christ, le Dieu invisible a fait beaucoup plus que Job aurait pu imaginer. En regardant Jésus, on voit le Dieu tout-puissant, invisible, rendu parfaitement visible. Christ est plus grand qu'on ne pense. Et la suite de verset 15, il est aussi héritier. Christ est le premier-né de toute la création, Paul dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier-né, ça veut dire simplement celui qui va hériter de tout. Christ est l'héritier de toute la création. Beaucoup de mes amis français sont accros de la série anglaise Downton Abbey. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pas compliqué si vous ne connaissez pas. Toute l'histoire tourne autour du patrimoine important, magnifique, d'une famille au début du XXe siècle qui a malheureusement 3 filles et aucun garçon. Du coup, l'énorme maison et les terres de la famille vont passer à un cousin masculin, l'héritier légal. Ce cousin devient le personnage central de l'histoire. Tout tourne autour de lui. Toutes les filles, toutes les femmes veulent l'épouser. Il est beau aussi, bien évidemment. Et tout le monde pense à lui. L'espoir de la maison repose sur lui. Parce que tout sera un jour à lui, tout tourne déjà autour de lui. Quand il doit partir à la guerre, tout le monde ne pense qu'à lui, à son retour pour prendre sa place d'héritier. Et Christ est l'héritier de toute la création. La création tourne autour de lui. Notre avenir et tout l'avenir de l'univers dépendent de lui. Tout lui appartiendra. On n'attend que son retour pour que tout retrouve sa place. Au verset 16, on voit que Christ est non seulement l'héritier de toute la création, mais qu'il est aussi son créateur. C'est logique que tout tourne autour de lui parce que tout a été fait par lui et pour lui. On nous le dit 2 fois. Et les différentes parties de la création sont même mentionnées pour voir que tout veut vraiment dire tout. Il dit tout dans le ciel et tout sur la terre, c'est-à-dire tout l'univers physique. Mais aussi toutes les choses invisibles, les pensées, les sentiments, les orbites, la force de la gravité, le temps. Il a tout créé. Aussi le monde spirituel, les puissances, domination, autorité. Tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui. La sonde spatiale Voyager 1 a maintenant, depuis 10 ans, dépassé la frontière de notre système solaire. Et il voyage à 17 km la seconde. C'est très rapide. 17 km la seconde. Si les générateurs tiennent, je ne pense pas que ça sera le cas, mais bon, si les générateurs tiennent, elle devrait arriver à l'étoile la plus proche quand ? L'année 73 000. 73 000. Ça, c'est l'étoile la plus proche de notre petit système solaire. En plus, il y a encore 200 billions d'autres étoiles dans notre galaxie et encore 200 billions de galaxies dans l'univers visible. Dans la plus proche, Andromeda, j'apprends des choses là, est à 2,5 millions d'années-lumière. Pas vraiment à côté. Alors, le nombre d'étoiles est juste immense. Et la taille de notre univers, insaisissable. Mais Jésus-Christ a tout créé et tout tourne autour de lui. Christ est plus grand qu'on ne pense. Selon verset 17, non seulement Christ est celui qui existe avant tout, il est aussi celui en qui tout subsiste. Il tient, comme je chante pour mes enfants, le monde entier dans ses mains. Tout ce qui vit, qui tient ensemble, qui respire, qui pousse, c'est en lui. Sans son soutien constant, l'univers ne serait pas, ne serait plus. Il paraît que les seules forces pour tenir les atomes en place sans qu'ils explosent sont immenses, des billions de fois plus fortes que la force gravitationnelle. C'est un miracle qu'on tienne littéralement ensemble. Et c'est Jésus-Christ qui soutient tout, qui garde tout en équilibre. Notre Christ est-il suffisamment grand? Le Fils est plus grand qu'on ne le pense. Paul va dire aux Colossiens au chapitre 2, verset 3, que c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ne pensons jamais que nous avons compris Jésus-Christ jusqu'au bout, qu'on a saisi qui il est, qu'on a épuisé ses trésors. C'est la vocation de toute une vie, même de toute l'éternité, de réellement faire sa connaissance. Mais Paul ne s'arrête pas là. Christ est le roi de toute la création, oui, mais il est aussi le roi de toute la nouvelle création. Versets 18 à 20. Maintenant, Paul veut aussi nous montrer qu'il est le roi de toute la nouvelle création que Dieu est en train de réaliser. Il commence par l'Église parce que nous sommes le microcosme de cette nouvelle création. C'est un peu comme la France libre à l'époque de l'occupation. Il y avait un groupe d'hommes et de femmes, sur place et à l'étranger, qui refusaient de céder et qui répondaient à notre chef. Ce mouvement était un peu comme un microcosme, un avant-goût de la réalité de la France totalement libre, que quelques années plus tard. Nous sommes quelque part la création libre. Nous répondons à un autre chef et notre petite communauté, éparpillée, parfois compliquée à vivre, est ce microcosme de la nouvelle humanité. Parce que un jour, toute la création entière sera libérée. Et ce n'est pas De Gaulle notre chef, mais Jésus-Christ. Christ est notre tête, nous sommes son corps. Toujours au verset 18, on voit que Christ est aussi le premier-né d'entre les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est celui qui ouvre le chemin à cette nouvelle création, nouvelle existence, à la vie éternelle si on veut. Il a été le premier à traverser la mort, à la vaincre et à entrer dans la vie éternelle, la vie qui sera la nôtre aussi. Il est le premier, le nouvel Adam de la nouvelle création. Imaginez que nous vivons en Espagne en 1519. Magellan et ses camarades partent en bateau vers l'ouest dans l'espoir de trouver un passage vers l'Asie. Certains pensent que c'est possible, d'autres non. Et vous attendez. 3 ans plus tard, avec seulement 18 hommes sur les 237 qui sont partis, le bateau Victoria revient, cette fois de l'Est, avec des tonnes de cannelle et de clous de girofle à bord. La preuve qu'un passage existe, que la terre est ronde. La première fois qu'on fait le tour du monde et donc la garantie que c'est possible pour d'autres personnes après. Ils ont ouvert le chemin. Christ est le premier et il nous ouvre le chemin. La preuve que la vie après la mort existe, il est revenu. Si on commence à en douter, à croire que c'est qu'un rêve, fixons nos regards sur notre pionnier, Jésus-Christ. Celui qui nous a ouvert le chemin. Mais selon versets 19 et 20, Jésus-Christ est plus que notre tête et celui qui assure la nouvelle vie. Il n'est pas moins qu'un réconciliateur cosmique. Nous n'avons pas l'habitude de penser à la croix dans ces termes, je pense. Mais Christ, mourant sur la croix, était en train de rétablir la paix entre Dieu et le cosmos. Sa création dans toute sa largeur. Il faut revoir un peu le début de l'histoire, parce que selon la Bible, la chute avait entraîné toute la création dans l'esclavage de la corruption. C'est la phrase qu'utilise Paul dans Romains chapitre 8, l'esclavage de la corruption. Donc toute la création attend d'être libérée lorsque les êtres humains seront enfin recréés à l'image de Dieu. Tandis que les hommes et les femmes sont créés pour être théocentriques, on utilise les mots grands théologiques aujourd'hui, théocentriques, nous sommes définis par notre relation avec Dieu. Dieu a créé le monde, la création, pour être anthropocentrique. Anthropocentrique. Bien sûr que toute la création tourne essentiellement autour du Seigneur, il l'a créé, c'est à lui. Mais Dieu a aussi choisi de mettre l'homme et la femme à la tête de sa création pour la gérer. C'est un peu comme notre système solaire où il y a la lune qui fait la tour de la Terre, mais en même temps tout tourne autour du soleil au milieu. Donc la création tourne autour de l'homme et tout le monde tourne autour de Dieu, le Créateur. Alors la fracture dans notre relation avec Dieu entraîne les conséquences pour toute la création. La création est devenue dangereuse pour nous et on a du mal à le gérer. Quand Jésus est mort, que son sang a été versé sur la croix, tout l'univers a été touché par cette réconciliation. Garantie de la libération à venir pour toute la création. Pas surprenant qu'il y avait des réactions cosmiques au moment de sa mort. Le ciel tout noir, le tremblement de terre. Avez-vous remarqué dans les films romantiques, c'est toujours au moment où l'héroïne se fait plaquer par l'homme ses rêves qu'il se met à pleuvoir des cordes? Nous avons le sentiment que la création doit refléter nos sentiments les plus profonds, je pense, notre vécu. Et quelque part, c'est vrai. Et ça se voit à la croix, où le deuxième Adam, l'homme qui est aussi Dieu, fait la paix, rétablit l'ordre, l'intention de Dieu au niveau cosmique. Mais comment est-ce possible? Regardez verset 19. C'est possible parce que toute plénitude de Dieu habite en Jésus-Christ. Paul veut qu'il n'y ait aucun doute que Jésus est pleinement Dieu, donc il met le paquet. Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Tout. Et c'est parce qu'il est 100% Dieu que Christ a pu effectuer une réconciliation cosmique. L'autorité d'un ambassadeur d'un pays comme la Belgique dépend entièrement du point jusqu'auquel il a la confiance du gouvernement. Si le lien est étroit et l'ambassadeur a la confiance de son pays, il peut négocier les traités, il peut faire plein de choses au niveau international. Mais s'il y a un soupçon qu'il ne représente pas pleinement le gouvernement, qu'il n'est pas au courant de tout, qu'il est un petit peu mis à l'écart, ben personne ne va l'écouter. Jésus-Christ, envoyé pour établir une paix cosmique, pour rétablir un monde déchu, a été habité par toute la plénitude de Dieu. Il a agi avec sa pleine puissance et autorité. Je nous pose encore la question, notre Christ est-il suffisamment grand? Il est le roi de toute la création, visible, invisible, des protons jusqu'aux constellations. Il est le roi de toute la nouvelle création, à l'échelle cosmique et jusqu'à la vie éternelle. Mais Paul ne s'arrête pas là. Tout devient personnel au verset 21. Et vous, vous à Colosse, vous à Charleroi, Christ est le moyen aussi de notre pleine transformation. Christ a accompli une réconciliation cosmique, mais le « il a voulu tout réconcilier » de verset 20 devient « il vous a maintenant réconcilié par sa mort » verset 22. Notre Dieu est le Dieu qui gère les galaxies, les autorités, les puissances visibles et invisibles, mais en même temps, il veut être réconcilié personnellement avec Pauline, jeune parisienne, qui a du mal à jongler boulot et famille. Il veut être réconcilié, il veut faire la paix avec Joël, une prof de maths qui est dingue de mots croisés. Il veut faire la paix, devenir ami avec Marie à Bruxelles, en train de divorcer son mari, qui est en colère contre lui, contre tout le monde, contre Dieu s'il existe. Et il veut être réconcilié avec... Remplir le blanc, toi, moi. Avec tes particularités, tes passions, tes secrets, ton passé, il est comme ça notre Dieu. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Quelle transformation! Un avant-après étonnant. J'aime scruter les pubs dans les magazines féminins pour voir les avant-après, un régime ou un relooking. Elle a perdu 20 kilos! Oui, mais vous l'avez habillé en noir avec un maquillage de star et un gros sac à main pour cacher son bidon. Mais ici, il s'agit d'un vrai changement radical. Avant, étranger et ennemi de Dieu. Après, réconcilié devant lui, saint et sans défaut et sans reproche. Il n'y a pas plus radical. Et cela même pour celles parmi nous qui ont toujours connu le Seigneur. Peut-être qu'on n'a pas tous vécu le avant-après de façon chronologique, mais c'est vrai pour chacune ici, ce changement radical, chacun qui connaît le Seigneur. Nous étions par nature ennemis de Dieu, et il nous a transformés totalement et gracieusement par la mort de son Fils. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne où on m'a toujours parlé de Jésus. Mais c'est à l'âge de 21 ans que Dieu m'a vraiment montré cette transformation, ce qu'il avait fait dans ma vie. Je travaille pour une église d'ailleurs, et j'étais invitée à un nouveau groupe de quartier. Et donc, puisque c'était ma première fois, l'organisateur, un pasteur à la retraite, m'a demandé de donner un peu mon témoignage, comment j'ai connu Christ. J'ai commencé un peu blasée. À l'âge de 3 ans, j'ai prié pour que Jésus vienne dans ma vie. Et il m'arrête. Et qu'est-ce que s'est passé, Laura? Il m'a donné la vie nouvelle. Et j'ai reçu l'Esprit Saint. Et il m'a donné l'espérance de la vie éternelle. Et je faisais partie de sa famille. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il m'a lâchée. Mais je le remercie parce qu'il m'a montré que la transformation de toute chrétienne est radicale. Que notre témoignage soit coupé le souffle ou que la vie ait été un long fleuve tranquille. En Christ, si on le connaît aujourd'hui, Dieu nous a transformés de fond en comble. Honnêtement, je ne suis même pas sûre que ça s'est passé à l'âge de 3 ans quand j'ai prié cette prière. Je pense très probablement que je faisais déjà confiance à Jésus à ma manière. Mon fils aîné, j'ai 4 enfants, a prié dans un magasin IKEA pour faire confiance à Jésus à l'âge de 3 ans. J'ai lu les statistiques sur lesquelles un bébé européen sur 10 est conçu sur un lit IKEA ou quelque chose comme ça. Et j'ai aussi lu le petit commentaire après que les 9 autres ont été conçus sur un matelas par terre car le lit était trop difficile à monter. Mais peut-être que mon fils est le premier à être né de nouveau dans un magasin IKEA. Mais on ne parle pas beaucoup de ce moment avec lui. Tout ça pour dire que si un enfant a pris une décision, pris une prière, surtout si c'est dans une famille chrétienne où on parle avec lui de ça depuis un moment, on ne met pas beaucoup d'accent sur le moment même. Et je pense qu'il y a une sagesse là-dedans. Mais ne perdons jamais de vue qu'il y a pour chacun un moment de transformation. Qu'on peut mettre la date ou pas. Nous sommes nés, ennemis et étrangères. Et c'est seulement en Christ que nous sommes devenus saintes et sans reproche. Verset 23 nous explique comment ce changement radical vient jusqu'à nous. Paul dit que c'est par l'Évangile que vous avez entendu. La porte d'entrée de cette transformation radicale, c'est l'Évangile, le message annoncé de Jésus-Christ. Peut-être pour certains d'entre vous, c'était une Bible pour enfants. C'était un schéma de 6 dessins. C'était un message à l'Église, un camp chrétien. Qu'est-ce que l'Évangile à la base? C'est quelques faits historiques avec une explication et un appel à la repentance. C'est simple. Un enfant peut le saisir et même l'expliquer à un niveau. Mais comme a dit Charles Hodge, un théologien, l'Évangile est tellement simple qu'un petit enfant peut le comprendre et si profond que toutes les études des meilleurs théologiens ne pourraient jamais épuiser ses richesses. J'essaie de trouver un exemple pour mieux saisir ou illustrer combien c'est beau et surprenant que l'annonce d'un simple message soit la porte d'entrée pour cette transformation radicale et cosmique. Comme souvent, je trouve que C.S. Lewis a parfaitement exprimé cette notion dans son choix d'une armoire, comme la porte d'entrée à Narnia. Un objet ordinaire, simple, presque banal, mais en entrant dedans, on passe du bois massif aux bois enneigés et magiques. Un nouveau monde merveilleux. Peut-être que le message de l'Évangile nous semble parfois trop ordinaire, trop simple, une tracte, une explication, une Bible. Ce n'est pas suffisamment impressionnant, ou philosophique, ou magique. Dieu, dans sa sagesse, nous a donné une porte d'accès qui rend cette transformation réellement accessible à tous. Mais ne nous trompons pas, l'armoire ordinaire mène à un monde incroyable. L'Évangile nous donne accès à un nouveau monde époustouflant. Bon, ce n'est pas compliqué de chercher une application concrète pour ce message. C'est là très clairement dans le texte, verset 23. Tout ce qu'on a vu ce matin, les merveilles de Christ, cette nouvelle vie dont il est le roi, cette transformation cosmique, mais personnelle et intime, il y a une seule condition. Une seule chose qui reste à faire, rester attaché à cet évangile de Christ. Que vous restez fondés, dit Paul. Dans cela, je veux qu'on réfléchisse à un défi particulier, le défi de l'ennui. Il y a un vrai danger de connaître par cœur l'évangile de Jésus-Christ. Jésus, fils de Dieu, mort à la croix, blablabla, oui, j'ai entendu mille fois, on le chante, on le parle, etc. Il y a un danger que ce message devienne ordinaire, banal même. On regarde l'armoire sans voir la magie. On écoute l'évangile sans voir tous les trésors de la connaissance et de la sagesse qui sont cachés en Jésus-Christ, comme Paul dit au chapitre 2, verset 3. Donc, pour reformuler la question, comment rester fondé sans stagner ? Comment rester fondé sans stagner? Je vous propose deux pistes qui ne sont pas les miennes, mais ce que dit Paul au chapitre 2, versets 6 à 7, quand il exhorte les Colossiens encore à rester attachés, scotchés à Jésus-Christ. Première piste, rapidement, sois un arbre. Je parle pas très bien. Chapitre 2, verset 7, que vous soyez enracinés en lui. Et au chapitre 1, verset 6 et verset 10, il parle aussi de porter des fruits, encore l'image d'un arbre. Quelle superbe image. Un arbre, vous aurez remarqué, même à Paris, on voit des arbres de temps en temps. Il grandit, il pousse, il mûrit, il développe sans bouger. Pour nous, pareil. Restons en Christ, mais plongeons nos racines de plus en plus profondément en lui pour porter plus en plus de fruits. On n'arrive jamais à comprendre l'évangile de Christ jusqu'au bout, mais il faut méditer l'évangile, pas juste répéter les mêmes mots. Voir comment tout l'Ancien Testament parle de Christ, de sa mort, de sa résurrection. Quelle arrogance de penser qu'on connaît tout sur l'évangile, qu'on l'a épuisé. Oui, plongeons-y plus profondément. Oui, cherchez à illuminer par d'autres textes moins connus de l'Ancien Testament, mais ne nous lassons jamais de l'Évangile. Restons scotchés à Jésus-Christ. Deuxième piste, pour terminer. Sois un bâtiment. Un bâtiment. Encore verset 7, fondé sur lui, dit Paul. Un concept plus parlant, pour une parisienne, il faut le dire. Les bâtiments, on connaît. Un bâtiment, ça grandit aussi de plus en plus haut, ça devient de plus en plus beau, mais encore sans bouger. Je ne veux pas être la chrétienne qui ressemble à la tour de Pise, qui risque de s'effondrer à tout moment. Alors nous aussi restons en Christ, fondés sur lui, sans bouger, mais construisons notre vie de plus en plus haut en lui. On a vu des racines, maintenant on voit les étages. Comment se construire en Christ sans bouger? Il faut appliquer l'évangile de Christ à chaque partie de notre vie, à chaque nouvelle décision, chaque nouvelle étape, pour construire toujours sur lui et en lui. Parfois, on pense que l'évangile, c'est pour nous sauver, c'est très bien, mais après, on a besoin d'autre chose, de chercher ailleurs pour la motivation, la force de construire notre vie. Mais Paul est farouchement opposé à cette idée qu'on regarde ailleurs. On ne dépasse jamais l'évangile de Jésus-Christ. Il faut peut-être donner un exemple concret pour qu'on comprenne, c'est quelque chose de très fondamental. Comment l'évangile nous aide à grandir en Christ. Donc, pour vous montrer, je vais vous poser deux questions. Première question. Croyez-vous que Jésus peut pardonner tous nos péchés? Oui. Oui. Facile. Maintenant, vous êtes dans une situation, chrétienne mûre que vous êtes, vous avez quand même volontairement blessé votre mère dans un échange au téléphone avec des mots violents que vous ne pouvez retirer. Ou vous ne vous serez jamais imaginé capable de ça, mais lors d'une soirée arrosée à un séminaire, vous avez plus ou moins trompé votre mari avec un collègue. Je repose la même question. Croyez-vous que Jésus peut pardonner tous nos péchés? Même les gros avec les conséquences importantes. C'est plus difficile, hein? Ce n'est qu'un exemple pour montrer qu'il y a des niveaux de croire. On dit qu'on croit, mais parfois on n'est pas cohérent. On croit à un certain niveau, mais pas dans tous les domaines de nos vies, dans toutes les situations. Peut-être que Dieu nous aime, on se pose des questions dans certaines situations. Peut-être que nos péchés sont si graves qu'ils méritaient la mort de Jésus-Christ. On a du mal à le saisir. Peut-être que cette vie n'est rien par rapport à la vie éternelle qui est l'enjeu réel. On a du mal vraiment à croire ça face à des décisions par rapport à notre vie. Nous ne croyons ces choses qu'à moitié et ça a un impact énorme sur notre vie chrétienne, notre croissance spirituelle. Cela ne remet pas en question notre salut. Je veux dire ça très clairement. Notre salut ne dépend pas de la qualité de notre foi, mais entièrement de ce que Jésus a fait à la croix. Mais c'est important de constater que tout péché a, à sa racine, un manque de foi à un certain niveau. Il y a croire et croire. Pour une construction solide, il y a besoin de réappliquer l'évangile de Christ tout le temps à nos cœurs, dans toutes les situations, tous les défis, tous les domaines de nos vies. On ne dépasse jamais l'évangile de Jésus-Christ. Je vais terminer avec un petit plaidoyer en tant que femme de pasteur. Mariée à un pasteur, j'ai remarqué qu'il y a toujours quelques personnes dans une église qui trouvent que le pasteur parle trop de l'évangile et pas assez pour les chrétiens. Et leurs remarques sont profondément décourageantes. Quand on gratte un peu, ces personnes souvent cherchent des enseignements plus piquants, plus intéressants, plus provocateurs, originaux, intellectuels, variés, sur des thèmes d'actualité ou des controverses théologiques. Quelque chose de plus intéressant que l'Évangile. Je vous invite, mesdames, à être une force d'encouragement pour vos pasteurs, même si c'est votre mari, comme le cas d'Éléonore. Qu'ils entendent de nos bouches un désir d'aller plus loin avec Jésus-Christ, de creuser plus ses merveilles, de mieux saisir et mieux appliquer son évangile. Quand on les remercie, quand ils parlent de Jésus, merci, merci de nous avoir aidés à mieux saisir qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Qu'on se réjouisse d'entendre l'évangile annoncé. Je sais que parfois les pasteurs peuvent parler de l'évangile avec les mêmes mots, les mêmes images. Ça arrive. Mais la solution n'est pas de demander autre chose que l'évangile, c'est de les encourager, de poser les questions, de prier pour eux, qu'ils ne se lassent jamais de nous nourrir avec l'évangile, le message de Jésus-Christ. Et si nous avons l'impression qu'au lieu de creuser les richesses de Christ, il retourne toujours le même bout de terre? Dans la parabole du semeur, Jésus ne remet pas en question le semeur, celui qui sème, mais nous exhorte à être la bonne terre. À nous d'être le bon terrain, à méditer l'évangile, à aller plus loin dans notre application du message. Parce que c'est ce message, ce Christ, qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est ça qu'il nous faut. Il est bien plus grand qu'on ne pense. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons tout simplement t'adorer pour qui tu es. Tu es merveilleux. Donne-nous, chacune ici présente, d'être enracinée en toi et fondée sur ton évangile, sur toi. Dans ton nom précieux. Amen.